pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Il est 9h passé de 2 minutes à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. L'équipe de jeudi, c'est bien sûr, et toujours Delphine.
Bonsoir Laurent, tu es la deuxième partie de ce Canu Info voilà. De jeudi.
Et nous allons faire un petit tour de l'actualité en commençant par parler de la lutte. Bon, vous connaissez tous le slogan que seule la lutte paie. Slogan que nous avons fait, nous, que nous utilisons depuis des années. Et nous allons parler un peu de lutte qui paie, et malheureusement, c'est pas forcément pour nous réjouir. On va commencer par les nationalistes de tous bords, hein, qui se lancent aussi dans des luttes. Lutte pour mettre en œuvre leur projet nauséabond, moribond, sur fond de nationalisme, bien évidemment, et souvent teinté de racisme, plus ou moins affiché officiellement. On l'a vu en Catalogne, on l'a vu bien ailleurs. Bon, on espère du coup quand même que leur lutte, elle, ne paiera pas et qu'ils perdront à la fin. C'est la même chose avec les fachos, d'autres fachos dirons-nous, qui luttent pour faire passer leurs idées ô combien pourries. Hein. On les a vus samedi dernier à Lyon tenter de manifester. Bon, c'est raté pour cette fois, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, mais on les voit arriver aux portes du pouvoir en Autriche. Alors on était rassurés en Autriche avec l'élection du chancelier qui avait élu une sorte de pseudo-vert centriste face à l'extrême droite, sauf que le week-end prochain il y a les législatives et il y a de grandes chances que ce soit l'extrême droite qui sorte gagnant de ce vote en Autriche. Voilà, la persistance de l'extrême droite en Europe est vraiment pas rassurante et pour l'instant la lutte de l'extrême droite pour prendre le pouvoir semble être sur le bon chemin. Bon, si on regarde d'autres luttes, on peut regarder les religieux de tous bords, hein, qui ont eux aussi basculé dans la lutte active ces dernières années en copiant un petit peu les luttes sociales. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors en général, ils luttent contre les autres religions, parce qu'ils sont racistes envers les autres religions, contre les athées, contre les homos, enfin ben, bref, tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Alors par exemple, hein, le week-end dernier, on a vu les cathos polonais manifester en masse le long des frontières de leur pays pour condamner l'arrivée massive de musulmans conquérants et sanguinaires. Bon, ces musulmans conquérants et sanguinaires n'existent que dans leur imagination, mais ça leur empêche pas de manifester et en nombre et de faire vraiment peur, hein, puisque là on est dans le pur racisme, bien évidemment. De même, les combatifs militants anti-avortement de SOS Tout Petit sont allés de leur prière de rue le week-end dernier à Bayonne. Bien sûr, il y avait heureusement des militants pro-avortement, enfin pro-droit à l'avortement en face. Mais bon, ils sont très présents, ces militants religieux, ces dernières semaines. On a vu circuler un bus orange transphobe à Paris il y a quelques jours, quelques semaines. On a vu cette affiche qui comparait les enfants issus de PMA à des légumes OGM. Voilà, donc on peut noter quand même que la réaction religieuse est combative. On souhaite juste qu'elles crèvent et dans la douleur, hein, parce que d'après leurs textes, enfin certains de leurs textes, c'est mieux quand on souffre. Ben on leur souhaite exactement ça. Pour finir, et pour parler de ceux qui luttent et qui sont dans des phases de victoire, on parlera brièvement des patrons, hein, qui ont une lutte qui est plutôt des luttes d'influence, mais qui ont des luttes d'influence qui fonctionnent bien avec le gouvernement actuel, avec les gouvernements précédents aussi. Voilà, on leur souhaite juste l'arrivée d'un ouragan social qui les balayera, on l'espère, définitivement. On pourrait parler d'autres luttes, hein, de la lutte des féministes, qui n'est pas gagnée. Beaucoup d'affaires sont sorties, notamment autour de Harvey Weinstein. Donc là, on en est qu'au début. Pour l'instant, ces 40 dernières années, les femmes ont perdu face à cet horrible monstre. Qui est juste un monstre machiste, hein. Bon, bah là, peut-être que ça va s'inverser enfin, maintenant qu'il est très vieux. C'est trop tard, me direz-vous, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, il y a d'autres luttes qui sont un peu perdues, hein, pour faire changer d'idée les gens de droite, bah sinon ils seraient pas de droite. Parce que Laurent Wauquiez, qui marche sur les traces de Marine Le Pen, a d'ailleurs refusé le débat avec Marine Le Pen, parce que peut-être qu'il voit pas l'intérêt d'affronter quelqu'un dont il se sent proche. On rappelle qu'il a pas appelé à voter contre Marine Le Pen, clairement, à la dernière élection. Donc voilà, la lutte paie, mais pour l'instant, elle paie plutôt pour les autres. On espère que nos luttes, elles, vont devenir victorieuses. En attendant, pour lutter, il faut s'informer, il faut développer ses connaissances, il faut développer sa culture. Le Canu Info du jeudi vous propose quelques informations pour développer vos connaissances et votre culture.
Avec nous.
Avec nous.
Parce que nous les développons en faisant ce qu'est Canu Info.
Exactement.
C'est notre lutte à nous.
Nous parlerons Palestine, nous parlerons centre éducatif fermé, c'est-à-dire prison pour les gamins, hein, les petits jeunes. Nous parlerons du beurre, nous parlerons des vaccins encore, nous parlerons du musée des tissus encore aussi, ça faisait longtemps. Nous parlerons énergie, environnement, nous parlerons sport business et nous ferons un petit agenda. Voilà donc le programme de ce Canu Info. On va commencer par la nouvelle du jour, hein, une grosse nouvelle, puisque le Hamas et le Fatah sont parvenus hier mercredi à un accord après 2 jours de discussions qui ont été menées à huis clos au Caire en Égypte. Donc on rappelle le Hamas, mouvement islamiste, qui est présent partout en Cisjordanie, mais très implanté dans la bande de Gaza, hein, puisqu'on rappelle qu'ils ont été vainqueurs des élections législatives en 2006, mais ils ont jamais eu vraiment leur victoire, hein, puisque la communauté internationale s'est liguée contre la démocratie palestinienne, même quand c'est un parti qui est classé à l'extrême droite, hein, le Hamas c'est un parti d'extrême droite, même si c'est un parti résistant à une occupation, ça reste un parti aux idées d'extrême droite. Il avait gagné tout à fait honnêtement. Il a été évincé donc de sa victoire et finalement il l'a gagné quand même, puisque dans les faits le Hamas avec ses militants viré l'autorité palestinienne représentée par le Fatah en général de la bande de Gaza. Donc ces pourparlers très discrets ont permis une réelle avancée, alors même si c'est un petit accord, c'est-à-dire qu'il y a encore plein d'étapes avant un vrai accord définitif, notamment la sujet ô combien épineuse des 25 000 hommes, parce que c'est des hommes essentiellement, membres des brigades Ezzedine al-Qassam, c'est le bras armé du Hamas, ça n'a pas été évoqué, le Hamas refuse de le désarmer, le Fatah voudrait le désarmer, le Fatah a en image ce qui s'est passé au Liban. Au Liban, quand le Liban a pas pu arriver à désarmer le Hezbollah. Et la situation aujourd'hui au Liban, c'est que le Hezbollah, c'est un état dans l'état dans le sud du pays. Donc ça, c'est vraiment pas ce que veut le Fatah. Du coup, c'est encore un point d'achoppement, mais ça n'a pas été abordé. Il y a un accord sur plein d'autres domaines. Pour l'instant, tout n'est pas connu. Ce qu'on notera quand même, c'est que il va y avoir 3000 policiers de l'autorité palestinienne qui vont arriver dans la bande de Gaza. Après le premier ministre palestinien qui est venu dans la bande de Gaza il y a quelques temps, ça va être le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui va venir dans la bande de Gaza. Donc il y a un vrai début de réconciliation. Alors l'enjeu, il est important, il est même double. Alors le premier, c'est le sort des 2 millions de Gazaouis, hein, qui sont dans une espèce de grande prison avec un blocus aussi bien du côté d'Israël et malheureusement du côté égyptien, avec toutes les conséquences, hein, la pauvreté, le chômage, les pénuries d'eau, d'électricité. Et puis, deuxième conséquence, l'avenir de la Palestine, puisque ça fait de nombreuses années que beaucoup d'interlocuteurs internationaux disent que le règlement du conflit n'avance pas à cause des divisions palestiniennes. Alors, de l'extérieur, enfin, quand on connaît bien la situation israélo-palestinienne, on sait que c'est pas vrai. On sait que le principal obstacle à l'avancée du règlement du conflit, c'est Israël, aidé par les États-Unis d'Amérique. Mais maintenant que le Hamas et le Fatah vont à nouveau se parler et travailler ensemble, eh ben, les instances internationales vont devoir trouver une autre excuse pour justifier la non-avancée du règlement du conflit, ou alors peut-être qu'enfin ils seront réalistes et qu'ils accuseront réellement Israël, qui est quand même le principal obstacle, notamment à travers la colonisation en colonie, hein, en Cisjordanie, qui est toujours très très importante. Il faut savoir que l'autorité palestinienne n'a un pouvoir que très limité et sur une partie très faible du territoire de Cisjordanie, qui est en grande partie géré par l'occupant israélien. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, on espère, pour l'avancée, pour la paix dans cette région. Non, tu voulais. Non.
Sur la Palestine, t'as d'autres infos? Parce que non. Je veux bien donner deux infos. C'était juste pour dire que ce dimanche dernier, 8 octobre, c'était la fin de la marche du collectif ou du mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix. C'est un mouvement qui a marché pendant 2 semaines à travers Israël et à travers la Cisjordanie.
Donc c'est un mouvement composé de femmes.
Et de femmes, et de femmes, et que de femmes.
Non, mais de femmes israéliennes et de femmes palestiniennes. Oui, oui, tout à fait.
C'est important parce que effectivement, c'est des femmes surtout israéliennes, mais juives israéliennes, arabes israéliennes et quelques palestiniennes qui sont main dans la main, parce que c'est le terme qui est employé, pour lutter contre la guerre, le conflit, et c'est une guerre contre les bonhommes des deux côtés. C'est-à-dire que elles en ont marre que ce soit des bonhommes qui décident pour elles de ne pas mettre fin à ce conflit. Et donc c'est aussi important parce que c'est deux territoires sur lesquels les femmes se sont souvent réunies pour essayer de mettre en place une paix. C'est difficile, elles se sentent un peu seules, donc c'est une marche qui avait son importance et ça a duré 2 semaines. On peut pas dire qu'elles soient forcément très appréciées. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est un petit peu indirect, mais c'est quand même lié à la situation israélo-palestinienne. Les États-Unis d'Amérique ont appliqué leur menace, c'est-à-dire que ce jeudi 12 octobre, les États-Unis d'Amérique se retirent donc de l'UNESCO. L'UNESCO, je vous rappelle, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Et la raison officielle qui est invoquée...
C'est la vraie raison quand même.
Oui, c'est ça.
Et quelque part, ils n'ont pas totalement tort.
C'est que l'UNESCO est anti-israélienne. Alors, la deuxième raison, c'est qu'aussi que les États-Unis d'Amérique en ont marre de payer pour un certain nombre d'organisations.
Alors, faut savoir que les États-Unis ont arrêté de payer il y a un moment, quand la Palestine 2011. A été acceptée 2011. Par l'UNESCO. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une élection pour remplacer présidente actuelle de l'UNESCO. Et vraisemblablement, celui qui va gagner, c'est quelqu'un qui vient du Qatar. Si ma mémoire est bonne. Et un mec qui a fait effectivement une campagne anti-Israël. Ouais. Donc c'est un vrai antisémite et il y a une vraie inquiétude. Et je ne vais pas défendre l'Israélien parce que ça m'arrive rarement, mais ce mec qui va se mettre là, effectivement, c'est pas le bon personnage pour diriger l'UNESCO. D'abord, c'était mieux quand c'était une femme, parce que d'abord, elle avait des positions un peu moins conflictuelles, même si on ne l'a pas vu beaucoup, la responsable. Là, c'est une mauvaise image. L'élection n'est pas finie et pas gagnée encore.
Non, mais c'est pour ça que je voulais rappeler ce que c'était que l'UNESCO, c'est-à-dire une organisation qui parle d'éducation, de science et de culture, et que ce Qatari puisse être élu demain, c'est un vrai problème parce qu'il représente rien de bien pour l'éducation, la science et la culture. Reste que les États-Unis d'Amérique avaient déjà dit qu'ils s'en iraient de l'UNESCO il y a déjà un moment. Donc là, finalement, ils trouvent un chemin un peu biaisé pour quitter cette organisation sans pour autant se battre contre la réalité de ce qui va se passer pour cette organisation. On rappelle ce qui avait beaucoup énervé Israël et les États-Unis d'Amérique, c'est l'inscription de la vieille ville d'Hébron au patrimoine mondial de l'humanité.
Parce que la vieille ville, elle est palestinienne et pas du tout israélienne.
Et ça avait beaucoup énervé tout le monde. Voilà, je voulais juste rappeler, et tu avais complété, c'est très bien, cette petite chose de la journée.
Alors, je vais parler un petit peu des centres éducatifs fermés. Vous savez, ça a été créé, je crois que c'était sous Sarkozy, il y a un certain nombre d'années. Et pour en parler, en fait, j'avais commencé à lire et à faire un résumé, et je suis tombé sur le communiqué du syndicat de la magistrature, qui s'est allié à un autre syndicat. Et en fait, je vais lire leur communiqué, parce que ça résume totalement la situation et ce qu'est en train de mettre en œuvre Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui est pro-prison, pro-enfermement, pro-répression, qui n'est pas du tout un progressiste dans ce domaine-là. Alors, on sait qu'économiquement, il est à droite, Macron, mais on sait que socialement, il est à droite aussi, et sur la gestion de la délinquance, il est totalement à droite aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris quelqu'un de très très à droite comme Gérard Collomb en Premier ministre. Donc je vais vous lire le communiqué, on ne le fait pas souvent, d'un syndicat, le syndicat de la magistrature. Mercredi 27 septembre, lors de la présentation du budget du ministère de la Justice, le garde des Sceaux a annoncé pour la protection judiciaire de la jeunesse la création de 20 nouveaux centres éducatifs fermés durant le quinquennat. Cette annonce budgétairement coûteuse et éducativement inopérante est une provocation. Au moment où les conditions d'accueil des jeunes et de travail des professionnels se sont dégradées depuis plusieurs années par manque de moyens humains et budgétaires. Le fonctionnement de ces 20 centres éducatifs fermés nécessitera 600 professionnels. Quand les milieux ouverts, qui prennent en charge l'immense majorité des enfants et des adolescents, ne pourront compter que sur 40 postes supplémentaires d'éducateurs et d'éducatrices pour 2018. Nous dénonçons que tant de moyens soient dévolus à l'enfermement, alors que l'insertion et les établissements de placement éducatif sont considérablement fragilisés. Rappelons que la création de ces centres éducatifs fermés en 2003 ne relevait aucunement d'une logique éducative tenant compte des difficultés des jeunes, mais d'une commande politique sécuritaire. Ces structures représentent un élément d'un dispositif répressif passant par l'enfermement. Actuellement, il y a en France 52 centres éducatifs fermés. Nous, celui qui est à côté de chez nous, il doit être à Corba, si ma mémoire est bonne.
C'est ça.
Hier, comme aujourd'hui, les centres éducatifs fermés n'ont jamais constitué une alternative à l'incarcération. 15 ans après leur création, nous constatons que dans ces lieux d'enfermement et de privation de liberté, des dysfonctionnements sont régulièrement relevés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Présentés comme une dernière chance avant l'incarcération, ils sont en réalité souvent proposés à la place de lieux de placement éducatif et se trouvent être de fait l'antichambre de la prison. En effet, la situation d'enfermement et le cadre mis en place créent les conditions pour que surviennent des incidents qui viennent aggraver la situation pénale d'un nombre important d'adolescents et d'adolescentes. Ils participent de la banalisation de l'enfermement et de l'incarcération, majorée par la politique pénale plus répressive. La création des centres éducatifs fermés a ainsi un effet mécanique, amenant une réponse plus sévère, puisqu'un placement dans ces structures ne peut être ordonné sans mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l'épreuve, avec pour effet l'incarcération en cas de non-respect de l'obligation des obligations de placement. Au 1er août 2017, 885 jeunes étaient incarcérés dans ces centres éducatifs fermés. Chiffre précédemment jamais atteint, dont plus de 70% au titre de la détention provisoire. Un rappel, détention provisoire, c'est des gens qui ne sont pas condamnés. Pas encore. L'enfermement est une violence. Cette violence touche particulièrement les jeunes pris et prises en charge par la police, la PJJ, la police judiciaire. Souvent en détresse sur le plan familial, psychologique et social. La surveillance constante relève davantage de l'application de règles pour redresser des comportements que d'un travail individualisé sur la situation globale de chaque adolescent et chaque adolescente. Ces pratiques entraînent une confrontation permanente entre les jeunes et les professionnels et des relations marquées par des rapports de force. De plus, de nombreuses maltraitances, atteintes aux droits des jeunes, dysfonctionnements ont été constatées dans les différents centres éducatifs fermés. Malgré une note de l'administration centrale du 4 août 2015 demandant expressément aux échelons hiérarchiques de renforcer leur contrôle sur ces établissements et d'être extrêmement vigilants quant au risque de dérives violentes dans les pratiques éducatives, plusieurs centres éducatifs fermés ont fermé suite à des violences graves envers les jeunes sans que cela ne conduise à une analyse et à une remise en cause de ce type de prise en charge. C'est au contraire l'annonce de l'ouverture de 20 nouveaux centres éducatifs fermés qui constitue aujourd'hui la seule réponse officielle du gouvernement à cette situation. Nous continuons à demander la transformation immédiate des centres éducatifs fermés en lieux de placement éducatif et la réorientation des moyens dédiés aux structures d'enfermement vers les services éducatifs. Nous réaffirmons que la priorité doit être résolument donnée à l'éducation. Déjà engagée dans une campagne contre l'enfermement dans l'organisation d'un colloque sur ce thème l'année prochaine, notre détermination à lutter contre ce projet de nouveau centre éducatif fermé sera entière. Voilà donc le communiqué de cette alliance de syndicats, du syndicat de la magistrature et du SNPES PJJ FSU à la réaction à l'annonce de la création par le ministre de la Justice de ces 20 nouvelles prisons. Parce qu'il faut en fait, faut rappeler ça comme c'est, ce sont des prisons pour des adolescents et pour des non-majeurs, pour des mineurs. Donc voilà, c'est une bonne réaction. Le gouvernement est engagé dans un processus ultra-sécuritaire porté par le président et par Gérard Collomb, qui sont tous les deux en train de faire bien pire que ce qu'avait fait Sarkozy ou Hollande juste avant eux. Donc c'est important que des gens se mobilisent, notamment syndicats, la magistrature, qu'on sait qu'ils sont bien évidemment marqués à gauche.
Alors on va parler de toute autre chose maintenant, puisqu'on va parler d'un produit de luxe, le beurre.
Ah, c'est du luxe, le beurre ?
Alors écoute, pour te donner une petite idée, en avril 2016, la tonne était à 2500 euros. Il semblerait que cet été nous ayons atteint les 6004 et d'après le dernier chiffre que j'ai trouvé, nous en sommes à 8000 euros la tonne.
Ah oui, tu veux dire qu'au lieu d'aller acheter des lingots d'or, là il faut que j'aille acheter du beurre.
C'est ça. Alors, il semblerait que dans certaines régions, on commence à trouver de la pénurie, excusez-moi, en grande surface, alors que ça fait déjà quelques temps que je suis cette affaire de beurre, et chez les professionnels, on commençait à s'inquiéter. Alors, il faut savoir que ça a d'abord touché les grossistes, les particuliers, les consommateurs et consommatrices, nous n'étions pas touchés par cette pénurie, donc ça touchait d'abord les professionnels qui allaient acheter du beurre. Ça a donné à tel point des trucs bizarres que des professionnels, des boulangers, des restaurateurs sont allés acheter leur beurre, non pas dans des magasins spécialisés moins chers pour eux, mais en grande surface, comme toi et moi, parce que le beurre y était moins cher que dans les ventes de grossistes. Alors, c'était une inflation extrêmement importante qui vient de plusieurs petits problèmes. D'abord, il y a eu des vaches qui ont été moins bien nourries. Il y a eu un problème avec la récolte du fourrage. Donc, ça a donné moins de lait avec les vaches. Donc, il y a une pénurie et ça touche l'Europe et le monde, cette pénurie de beurre.
Parce que je crois qu'on avait des excédents en lait, parce que le lait...
C'est fini, ça.
On bat le lait et on fait du beurre avec.
Hein. Oui, mais alors, je te rappelle que nous sommes dans une société industrialisée où c'est pas parce qu'il y a du lait qu'on fait forcément du beurre avec, et qu'il y a une réaffectation du produit. Maintenant, il est vrai aussi, j'allais y venir plus tard, mais je vais te le dire tout de suite, c'est qu'il y a un certain nombre de producteurs qui vont plutôt fourguer ça pour le fromage, parce qu'il y a une rentabilité qui n'est pas la même plutôt que pour le beurre. Donc du coup, il y a une réaffectation qui s'est faite quand même en France, qui va plutôt vers le fromage plutôt que vers le beurre, et de fait, on manque de produits donc pour le beurre. Donc je te le disais, donc il y a moins de fourrage, les vaches ont moins produit, ça touche toute l'Europe, donc on peut pas dire qu'on va faire venir du beurre d'ailleurs, parce que en Europe c'est le même problème, mais c'est un problème qui vient un petit peu de partout. Il faut savoir qu'il y a une augmentation mondiale de la consommation de beurre. Aux États-Unis d'Amérique, pendant un moment, le beurre de la vache avait été
mauvaise
moins
presse.
Consommé,
bah
ça
oui.
avait mauvaise presse.
Ça fait grossir tout ça là.
Et ben maintenant,
il paraît que ça fait plus grossir le beurre aux États-Unis.
Et voilà. Et donc du coup, ils se remettent à manger. C'est exactement ça. Les pays arabes se remettent à beaucoup consommer du beurre. Et puis il y a la Chine qui se met à manger du beurre de la vache, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Donc il y a un manque de beurre un petit peu de partout dans le monde. Donc on peut pas juste fournir en France en allant récupérer du beurre ailleurs, puisque c'est partout que le lait doit être utilisé pour faire du beurre et qu'il y a une hausse de la consommation mondiale. Donc c'est vraiment un problème qui ne concerne pas juste nous. C'est fou, comme un petit truc comme le beurre, quand même, ça devient un vrai problème partout. Donc il y a aussi une fin des quotas laitiers. Hein, tu parlais justement de tout ça. Donc
ça,
depuis
ça fait
2015,
exploser le lait, non ?
Et oui, et donc il y a les produits dérivés. Hein, donc je parlais du fromage, mais il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui le lait est beaucoup transformé en poudre de lait.
Oui.
Et en particulier en France. Alors il y a les nationalistes que j'ai vus s'énerver sur le sujet qui disent que c'est très mal parce qu'il y a des usines qui ont été implantées par les Chinois. Parce que les Chinois, il faut le savoir, ont implanté des usines pour créer de la poudre de lait ici en France, en Bretagne par exemple. Ils ont acheter et créer et développer des centres parce que chez eux les industriels chinois n'arrivent pas assez à répondre à la demande.
Puis on rappelle qu'ils ont
donc
eu
ça s'est fait ici.
Beaucoup de scandales sanitaires sur la poudre de lait
ouais,
aussi.
Ouais, ouais.
Donc du coup ils ont déporté les
et
problèmes.
Et oui, parce que du coup ça faisait aussi le Made in France, ça faisait bien, le Made in Europe, ça faisait bien. Donc du coup ils sont venus s'installer ici. Donc comme quoi c'est marrant, hein, nous on va faire produire des choses là-bas pour les ramener chez nous, eux ils font aussi l'inverse, donc c'est la mondialisation de notre économie. Donc il y a une chute des prix du lait, il y a une baisse de la production parce que tout ça c'est moins rémunérateur. Donc ce sont un cumul, si vous voulez, de problèmes qui fait qu'aujourd'hui on manque de beurre.
Mais alors attends, les producteurs de lait qui disent toujours qu'on leur achète pas le lait assez cher, pourquoi ils se mettent pas à produire du beurre puisque ça vaut
parce
ça
que
vaut
c'est pas parce que tu traites ta vache que derrière t'as un producteur de lait, il faut le rappeler. C'est-à-dire
ouais,
que
mais
derrière
ils pourraient se transformer en producteur de beurre. Moi je leur donne ce conseil, moi j'y connais rien.
C'est pas le même métier, on va dire déjà.
C'est pour ça aussi qu'il y a des promis des formations, ils vont faire des formations pour
devenir
beuriste.
À un moment, il faut se souvenir, moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait des coopératives à la campagne.
Il y en a toujours.
C'est plus les mêmes, hein, excuse-moi, il y en a toujours, mais quand moi je les ai connues, qui évidemment, sur un petit territoire, récoltaient le lait des gars et des nanas du coin, et puis proposaient effectivement du fromage, du beurre et tout un tas de choses. Voilà, bon, le circuit, je rappelle, l'industriel n'est plus le même, donc on a cette problématique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, ça a touché que le beurre industriel en vrac, qui est vendu donc évidemment par kilo,
en cube. C'est pas dans bassine, mais oui.
C'est
voilà.
Du cube.
C'est du cube.
On parle souvent de cubes de 25 kilos. Et puis, ça touchait pas le beurre. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une réaffectation là aussi de l'économie, parce que la grande distribution n'a pas voulu tout de suite répercuter le prix de cette augmentation sur nous, les clients, les consommateurs, les consommatrices. Donc, il y a un moment aussi, c'est pareil, là où il a fallu les coopératives qui fourguent après le lait, et puis qu'il y a une transformation, on dit, ça pose problème, parce qu'au début, les grossistes, eux, ont commencé à suivre cette augmentation. Et il faut savoir que l'économie de la négociation n'est pas la même. Dans le prix du beurre au détail, il y a une négociation qui est menée à l'année, qui est très encadrée, alors qu'avec les grossistes, c'est une négociation qui est tout le temps. C'est toute l'année, il y a une négociation. Et donc, c'est un peu du coup par coup. Et ce qui fait qu'évidemment, ça monte, ça descend. Et nous, on a été protégés en tant que consommateurs et consommatrices, finalement, par cette augmentation. Mais pas les fabricants, pas les industriels. D'ailleurs, parce qu'il y a les fabricants qui sont petits aussi. Hein, ni le boulanger, qui donc ont été tous impactés en allant acheter chez un grossiste. Donc, il y a eu une répartition aussi de cette économie, de ce lait. Et puis maintenant, il y a un moment quand même, ça commence à bloquer. Et ça commence à se répercuter sur les supermarchés, puisqu'ils n'ont plus les livraisons qui étaient attendues. Et donc, dans certains endroits en France, c'est peut-être pas le cas dans votre supermarché, où vous vous en rendez pas compte, on trouve plus certaines marques, et en particulier les marques de distributeurs, puisque c'est les premières à avoir été touchées, parce qu'évidemment, c'est ceux qui ont les négociations les plus dures, et que les autres marques ont voulu maintenir
leur
position dans les rayonnages, et du coup, sont encore présents, ce qui risque de peut-être pas durer. Alors, ça a des répercussions évidemment, par exemple, sur le viennoiserie, c'est-à-dire quand vous allez chez votre boulanger pâtissier, vous vous rendez peut-être pas compte, mais certains et certaines boutiques ont déjà commencé à vous faire payer un croissant plus cher.
Bon, d'autres, il y en a qui mettent pas de beurre. Hein.
Ouais, mais alors c'est plus le même métier, c'est pas la boulangerie-pâtisserie.
Les études montrent qu'il y en a beaucoup qui les fabriquent pas eux-mêmes.
En tout cas, ils les achètent, donc ça revient même pour eux. Mais pour ceux qui les
Il y a aussi beaucoup d'huile végétale dedans.
Rendez-vous compte que c'est pas parce que votre paquet gâteau il augmente que c'est à cause du beurre, parce que dedans il y a peut-être que de l'huile. Pas de palme, mais de colza, en tout cas. Puisque maintenant, c'est quand même, on essaie d'éviter l'huile de palme, dans les industries, chez les industriels. Mais il y a d'autres secteurs. Et moi, j'ai trouvé un secteur. Alors déjà, deux secteurs qui sont impactés par cette problématique du beurre. C'est tout ce qui va concerner Noël. La bûche de Noël industrielle va être impactée. Parce que je vous rappelle qu'elle est produite très en avance. Et l'autre truc qui, moi, m'a fait beaucoup rigoler, je m'en fous, c'est un truc que je mange pas, ce sont les escargots, vous savez, à la persillade, qui sont surgelés, vendus et préparés en avance.
Ah bah oui, parce que...
Et oui, dedans, il y a du beurre.
Ah oui.
On met pas de la margarine végétale. Et donc, du coup, tout ça va faire augmenter les prix. Et il y a eu même le secteur des escargots. Les agriculteurs ont même fait communiquer sur la question au mois de septembre, c'était fin septembre, pour dire, attention, on va avoir un souci, il va falloir qu'on augmente nos prix. Et là, c'est aussi un discours envers la grande distribution, de savoir comment cette grande distribution va réagir. Alors voilà, en ce moment, on parle des états généraux de l'alimentation, Monsieur Macron parle aux paysans et aux paysannes, enfin, il parle surtout aux agriculteurs industriels et aux éleveurs. Je ne sais pas comment il va répondre à cette affaire de beurre, parce que pour l'instant, je pense que le ministère s'en fiche pas mal. Mais voilà comment une petite affaire comme le beurre, un truc que vous mangez peut-être le matin sur votre tartine, en fait, il y a toute une histoire derrière, et en fait, ça va durer un petit moment, a priori.
Alors, dans la rubrique santé et sciences aujourd'hui, on va revenir sur les vaccins, avec plusieurs infos autour des vaccins. Alors toujours d'abord autour de la campagne qui fait polémique, on en avait reparlé brièvement la semaine dernière, puisque ça réagit de l'autre côté, puisque des pédiatres, des pharmaciens, des gynécologues, des infirmiers, enfin pas mal de gens qui travaillent dans le médical se sont mobilisés et ont fait un communiqué pour dire qu'ils soutenaient la position du gouvernement de passer le nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11. Alors, c'est important ça, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop vu, encore vu autant que ça de scientifiques se mobiliser. Donc eux, ils rappellent que c'est indispensable, hein, que c'est important de vacciner, et bon, ils font toute la démonstration. C'est des gens plutôt respectables, alors pas... Bon, il y en a qui sont plus ou moins respectables, mais il y en a qui sont respectables. On a notamment l'Académie nationale de médecine, bon, qui elle a pu faire polémique par le passé, l'Académie nationale de pharmacie, l'Institut Pasteur, le Collège national des gynécologues et obstétriciens, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, la Confédération des syndicats médicaux français qui représente bon les médecins libéraux. Enfin, voilà, il y a pas mal d'associations comme ça, de syndicats et de professionnels de la santé qui se sont mobilisés pour dire ben non, nous on est bien pour une campagne de vaccination de ces généralisée avec ces 11 vaccins. On rappelle que ils étaient déjà beaucoup prescrits ces vaccins, mais pas obligatoires. Hein. Il n'y en avait que 3 d'obligatoires. Donc voilà, c'est plutôt un bon signe pour la santé publique qui est de la mobilisation. Alors le seul problème, c'est qu'ils sont beaucoup moins visibles, beaucoup moins efficaces que tous les autres, que tous les anti-vaccins là qui apportent leurs idées qui reposent sur rien du tout. Parce que vous verrez, il y a très très peu de scientifiques dans ceux qui sont anti-vaccins. Ils ont beaucoup moins de culture d'ailleurs quand il faut démontrer les choses. D'un seul coup, ils sont plus là. Hein, ils sortent rien du tout. Alors justement, on va parler des gens qui luttent contre le développement du vaccin. Et on va regarder du côté de l'extrême droite, puisqu'il y a pas mal de militants anti-vaccins qui nous viennent de l'extrême droite, bizarrement, et notamment de l'extrême droite conspirationniste. Bon, ils sont presque tous conspirationnistes, hein, mais donc voilà. Et on va parler de Serge Radet. Je pense que ça se prononce comme ça, R-A-D-E-R, hein, Radet. Donc qui est un des visages assez couramment visibles du mouvement de défiance vis-à-vis de la vaccination. Donc ce mouvement, on rappelle, hein, qui va de la gauche plutôt écolo à la droite souverainiste jusqu'aux fachos, notamment du côté des soraliens, et c'est de ça dont il est question ici. Alors Serge Radet, qui était autrefois pharmacien mais qui n'est plus, il était conseiller national et expert médicaments auprès de Nicolas Dupont-Aignan. Vous savez, qui avait un parti qui s'appelait Debout la République, qui s'appelle aujourd'hui Debout la France, parti d'extrême droite, hein, qu'on classe dans les souverainistes. Ça explique aussi pas mal la position de Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui a fait beaucoup de choses là et qui était très visible contre la campagne de vaccination. Alors, faut savoir qu'il est aussi membre, ce personnage anti-vaccin, du Parti pour la Santé. Alors, c'est un truc très à l'extrême droite aussi, qui dénonce, je cite, l'administration totalitaire de la santé. Alors ça, c'est un concept que je connaissais pas. C'est, en gros, vous êtes obligé de, enfin, voilà, quand vous êtes malade, vous allez vous soigner, c'est totalitaire d'aller se soigner. J'ai pas tout compris de leur discours. Alors si, il y a une partie du discours qui est assez compréhensif, c'est parce qu'ils veulent, je cite, rétablir la liberté thérapeutique des médecins. Donc ils peuvent, voilà, parce que ils sont encadrés, les médecins. Ils peuvent pas appliquer des traitements dangereux, ils peuvent pas appliquer des traitements non reconnus, etc. Eux, ils veulent rétablir la liberté thérapeutique des médecins et soignants, et la liberté de choix des traitements préventifs ou curatifs des citoyens, y compris des malades. Bon, on sent que voilà, c'est des libéraux jusqu'au bout, hein, c'est cette extrême droite ultra-libérale qu'on trouve notamment dans la santé. Et dans d'autres mouvements religieux, hein, qui prônent le droit d'avoir son propre choix, même quand c'est à l'inverse des positions, notamment sur la santé. Ce qui est drôle avec ce personnage, c'est quand il était pharmacien, il était pro-vaccin, bah, faut dire qu'il en vendait, donc peut-être que ça l'intéresse au niveau business. Maintenant, il est devenu contre. Alors, on le voit beaucoup dans des vidéos qui tournent sur Internet, notamment sur le site d'extrême droite, un gros site de désinformation d'extrême droite qui s'appelle Boulevard Voltaire, hein, fondé par Ménard il y a quelques années. On le voit pas mal passer, on l'entend, bah, nous on l'entend pas, mais des gens peuvent l'entendre sur la radio d'extrême droite parisienne qui est Radio Courtoisie. Voilà, on la voit grosso modo dans pas mal de médias plutôt orientés sur l'extrême droite, mais on l'a vu aussi faire un livre avec Michel Rivasi, on en avait parlé la semaine dernière, député Europe Écologie Les Verts, donc plutôt classé à gauche et écolo, parce qu'ils ont fait un bouquin ensemble dans une maison d'édition carrément à gauche. Qui s'appelait le racket des laboratoires pharmaceutiques. Donc là, on voit la vraie connivence qu'il peut y avoir entre les mouvements écolos et certains militants d'extrême droite, comme l'est cet ancien pharmacien Serge Radet. Donc voilà. Alors bien sûr, on va pas revenir sur les arguments. Alors lui, il cite souvent les nanoparticules de métaux lourds, plomb, nickel, zinc qui seraient présents dans les vaccins. Alors l'aluminium, pas en tant que nanoparticule, mais en tant que particule, a été souvent critiqué avec très peu d'apport scientifique. Lui, il parle des nanoparticules. Alors faut savoir que il y a forcément, quand on utilise un métal, il peut y avoir des nanoparticules de ce même métal, sauf que là les quantités sont ultra ultra faibles et il n'y a aucune preuve scientifique pour l'instant qui montrerait que ces faibles nanoparticules de métaux lourds soient dangereuses dans le cadre des vaccins. Et bizarrement, ce mec, il condamne jamais la présence de nanoparticules en quantité, elle, beaucoup plus importante, dans les crèmes solaires, les bonbons et plein d'autres choses issues du monde industriel. Donc comme quoi, il y a vraiment un choix idéologique de sa part. On comprend pas bien pourquoi, d'ailleurs, il est contre les vaccins, mais il l'est, en tout cas. Alors, il explique que les autorités mentent, que tout est verrouillé par le lobby industriel. Notamment, il a accusé les autorités de mentir sur la rougeole. On rappelle que c'est faux. Il y a bien, on en a parlé la semaine dernière, une augmentation des cas de rougeole depuis déjà un certain nombre d'années. Et cette année, ça a pas mal explosé. Mais bon, vous me direz, quand on est conspirationniste, on n'est pas à un mensonge près. Oui, c'est le cas notamment de cet ancien pharmacien. Et puis dernièrement, il a été invité par une conférence dont on trouvait les annonces que sur un site, le site Égalité et Réconciliation, donc le mouvement d'extrême droite porté par Soral. Donc voilà, ça situe un petit peu d'où peuvent venir une partie des militants anti-vaccins de cette frange d'extrême droite réactionnaire. Et qui est contre cette forme de santé. Et alors, moi, ce que je comprends pas, alors chez les écolos, on peut comprendre des fois, parce qu'ils voudraient soigner juste avec les plantes, en se mettant les pieds dans un bac de thym, par exemple, enfin, des trucs un peu farfelus. Mais que des militants d'extrême droite sont contre la santé et le vaccin, ça paraît beaucoup moins compréhensible. Et j'avoue que ça reste pour moi un mystère. Mais il faut qu'il reste des mystères. Comme ça, un jour, on les résoudra et on en parlera au Canu Info. Alors, toujours dans le cadre des vaccins, deux bonnes nouvelles sur les vaccins. Deux expérimentations qui semblent efficaces sur le virus Ebola. Vous savez, cette fièvre hémorragique qui est ultra contagieuse et ultra mortelle. Donc c'est une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine sur 1500 personnes. Elle a porté cette étude à Monrovia, donc au Liberia, pays qui a été particulièrement touché par Ebola ces dernières années. Donc en gros, l'étude c'était sur deux vaccins. Le premier vaccin, c'est RVSV-Zeboff, qui est un vaccin canadien, et le deuxième, c'est un vaccin qui s'appelle CAD3 Eboz. Ils ont des noms bizarres, mais c'est des noms techniques. Porté, lui, par l'Institut National Américain des Allergies et des Maladies Infectieuses. Et soutenu par des groupes industriels internationaux, les laboratoires Merck, GlaxoSmithKline, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vacciné ces gens avec ces 1500 personnes, soit avec un des deux vaccins, soit avec du placebo. Et après, ils ont, quand on fait des études de vaccins comme ça, ensuite, on prend pas les êtres humains vaccinés et on les met pas en contact avec le virus pour voir si ça marche. Parce que sinon, ceux qui ont le placebo, ils vont mourir. On n'a pas le droit de faire ça avec les êtres humains. On peut faire ça avec des petites souris, ce qui énerve certains, certes, mais ça fait avancer la science. On peut faire ça avec des bactéries, ou des cellules, simplement. Mais là, on est coincé. Donc, pour l'instant, la première phase de l'étude, c'est étudier les anticorps qu'ils ont développés. Parce que là, par contre, on est capable de voir les anticorps. Vous savez, c'est les parties qui s'attaqueront au virus. C'est comme ça que marchent les vaccins. Et donc, dans les virus présentés et essayés, les deux, on retrouvait un an après, dans un encore 80% des gens qui avaient des anticorps, et dans l'autre, 64% un an après. Donc, ils sont encore pas mal protégés un an après. C'est pas 100%, mais c'est jamais 100% le vaccin. Mais c'est plutôt un bon chiffre. Alors, bien sûr, ça, pour l'instant, on ne sait pas leur efficacité face au virus, puisque ces personnes-là n'ont pas encore été confrontées au virus et on leur souhaite pas d'ailleurs d'être confrontées au virus. Pour savoir si ça marche, il faut attendre effectivement qu'il y ait une épidémie et qu'on voit l'impact de l'épidémie sur les gens vaccinés, sur les gens pas vaccinés. On va pas créer une épidémie pour ça, bien évidemment. On n'est plus au temps de l'expérimentation sur les êtres humains des nazis. C'est fini tout ça, heureusement. Mais voilà, les conséquences ont été plutôt légères à modérées, des douleurs musculaires, un peu de fièvre et de la fatigue, ça arrive quelquefois dans les vaccins, sans gravité. Alors, c'est les deux premières, c'est les premières étapes, et c'est une bonne nouvelle, parce que si jamais ça continue, si jamais ces vaccins marchent vraiment, eh ben ça va être un grand soulagement pour les pays concernés par ce virus. C'est le Libéria, la Guinée ou le Sierra Leone qui ont été particulièrement touchés. Et puis pour le reste de l'humanité, parce qu'on n'est pas à l'abri que ces virus qui sont très très contagieux passent dans le reste de la population avec les mouvements de population. Donc voilà. Alors il y a d'autres vaccins en cours de création et d'évaluation dans le monde médical contre Ebola. Il y a une quinzaine de vaccins qui sont en cours de développement. Mais c'est vraiment des nouvelles rassurantes que voilà, des vaccins sont essayés et que ça progresse jusqu'au jour où on a un vrai vaccin contre cette horreur que peut être Ebola.
Alors, on va parler de ce qui se passe au Musée des Tissus. Je vous rappelle que le Musée des Tissus était en galère, que personne ne semblait dans les politiques lyonnais vouloir vraiment sauver ce Musée des Tissus lyonnais. On avait malgré tout Monsieur Wauquiez, notre très cher président de région. Oui, pardon, je me suis mis la main sur le cœur, vous n'avez pas l'image. Qui dit, s'était positionné en sauveur, en disant qu'il allait sauver le musée des tissus. Et donc, ce week-end, on attendait la décision collective de M. Wauquiez, de M. Humberton, le président de la CCI Lyon Métropole. Et donc, lundi, on a eu enfin le résultat. Monsieur Humberton, Emmanuel Humberton, le président de la CCI Lyon Métropole, a donc annoncé lundi que la CCI de Lyon,
la chambre de commerce
et d'industrie de Lyon, oui tout à fait, tu as raison,
c'est elle qui possède le musée,
oui, va céder donc le bâtiment du musée des tissus pour 1 € symbolique à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et les collections dedans? Avec.
Oui, voilà. C'est, les bâtiments. Après, pour ce qu'on en sait, les collections vont pour l'instant rester là, vont être bien gérées par ce qui va devenir le nouveau musée des tissus. Je sais pas encore quel nom ça prendra. Ce qu'on sait donc, c'est que la région va devenir propriétaire des lieux. Alors quand je parle du bâtiment du musée des tissus, c'est à la fois le bâtiment donc dans le deuxième arrondissement, mais aussi le parc de la Croix-Laval. Sur ce bâtiment, on estime tout ça à 16 millions d'euros. Donc voilà, la CCI finalement se débarrasse aussi d'un truc qu'elle n'arrivait pas à entretenir.
C'est surtout les frais engendrés par la gestion du musée.
Et puis il y a des travaux à faire surtout qui sont très importants. Donc il y a donc un projet de rénovation, de restauration de ce bâtiment dans le deuxième arrondissement de Lyon. On parle de travaux sur 2 à 3 ans. Donc pour l'instant, pour autant vous dire, le projet il n'est pas très clair encore. Peut-être que dès 2019, ça va s'y mettre. 2020, ça ouvrirait. S'il y aurait peut-être une ouverture partielle de certaines salles. Vous voyez, j'en sais pas bien plus. C'est pas toujours très clair. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, sont annoncés un budget pour remettre tout ça en état de marche. Un budget de 30 millions d'euros. Ce qu'on sait, ça c'est sûr, c'est que la région va verser, pour l'instant, 10 millions d'euros. Retenez. L'État va verser 5 millions d'euros. Unitex, qui est le truc corporatiste professionnel Union Inter-Entreprise Textile de Lyon, va fournir 1 million d'euros. 10, 5, 1, ça fait 16.
Il en manque 14.
Il en manque 14. Et donc, la grande idée de notre sauveur, c'est comme Gérard, il avait des idées, Gérard Collomb, bien évidemment, c'était qu'on va aller voir les entreprises.
Ah bah oui.
On va monter des partenariats, on va faire du mécénat, et tout va bien se passer. Bon, j'imagine aussi qu'ils vont lancer un peu du mécénat particulier au milieu. Ça nous permettra de nous sentir, nous, investis, quand ils nous iront donner. Monsieur, notre sauveur Wauquiez, a dit qu'il allait sortir son bâton de pèlerin.
Ah bah ça lui va bien en tant que cato
voilà.
Coincé, là.
C'est pour ça que je te l'ai souligné. Parce que lui-même a des images qui se renvoient à lui-même.
Voilà,
donc il va
jours,
sortir son bâton de pèlerin pour aller quémander des sous pour trouver 14 millions d'euros. Parce que c'est pas rien quand même. Alors l'idée évidemment de la part d'Emmanuel Humberton, c'était de dire peut-être qu'on va pouvoir ouvrir le lieu aussi pour des conférences entreprises.
Ah bah oui, une fois qu'il y a du partenariat comme ça, public-privé, c'est comme le Louvre à Paris, le musée peut devenir privatisable.
Voilà, alors peut-être qu'on fera des défilés de mode, des spectacles, voilà, il va falloir évidemment trouver un moyen de rendre hein, ce que les entreprises vont amener. Alors tant mieux si les entreprises investissent des sous là-dedans. Le problème évidemment, c'est que l'entreprise, elle demande jamais à ses salariés si c'est bien d'aller donner des sous à un musée des tissus. Ce serait bien que des fois, il y ait une coordination interne, un référendum, je sais pas, quelque chose, qui demande aux salariés s'ils ont besoin d'être mieux payés, ou si on peut donner au musée des tissus. Bon, non mais c'est vrai. Alors des fois, c'est les fondations créées par ces entreprises qu'ils ne veulent pas payer des impôts, qui vont aller au musée des tissus. Mais pas que, il faut savoir qu'en France, le mécénat d'entreprise, c'est surtout les PME hein, qui donnent au monde du spectacle et de la culture, donc ça risque d'être aussi ça, même si souvent, c'est les grosses entreprises multinationales dont on a le logo, évidemment, hein, sur les façades. Bon, toujours est-il que c'est plutôt bien d'avoir un lieu qui soit préservé. On espère que l'emploi sera lui aussi préservé à l'intérieur. Je vous le disais, hein, l'idée, c'est pas de virer les collections, c'est de les conserver ici. Alors, ça, comment, par qui, sous quelle charte et quel contrat, je ne sais pas. Tout ça n'est encore que le début hein, de cette renaissance du lieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu qui a soutenu notre sauveur, Monsieur Wauquiez. Parce qu'avant, on avait un empereur. Maintenant, on a un sauveur, c'est ça quand même qui est bien. Nous avons donc Monsieur Bernard Pivot, qui a tout son amour à Monsieur Wauquiez. Enfin, globalement, il remercie Monsieur Wauquiez d'avoir sauvé à lui tout seul le musée des tissus, avec ses petits bras, hein, si vous voyez. Et puis, il y en a un, dont évidemment, j'attendais le tweet. C'est notre...
Et Gégé ?
Alors, pour l'instant, même qu'il n'est pénéquant, hein, la ville de Lyon, la métropole, tout ça se ferme la boubouche par rapport à ce sauvetage. Hein, peut-être que la ville de Lyon et la métropole finiront par mettre des sous à l'intérieur de ce musée, mais rien n'est dit que ça se fasse. Hein, pour l'instant, c'est pas dit. Non, c'en est un autre dont nous avons parlé il n'y a pas très très longtemps, qui évidemment, en tant que lui-même sauveur du patrimoine en péril, se devait de donner son avis. Il s'agit de Monsieur Stéphane Bern, qui a donc lui aussi remarqué que notre sauveur à nous était un grand monsieur puisqu'il avait sauvé le musée des tissus. Donc en fait, c'est aussi une affaire politique hein, pour Monsieur Wauquiez. Il faut bien le voir. Il va certainement devenir le chef de ce parti de Les Républicains. Vu la concurrence qu'il y a en face, on peut s'attendre à ce que ça soit lui qui gagne, ce qui veut dire qu'on va aller encore plus à l'extrême droite si c'est possible avec Les Républicains. Mais voilà, il lui fallait une autre emprise, montrer qu'il est grand, qu'il est capable de grandes choses et que c'est notre sauveur. Avec ce sauvetage du musée des tissus, il rajoute un petit truc à son CV.
Ah bon. Alors on va parler maintenant d'énergie et d'environnement. Alors avec un petit mot, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, parce que là c'est toujours un peu complexe quand on parle de l'Europe, sur le climat, puisque l'Union Européenne semble jouer un petit double jeu en ce moment. Ça a été dénoncé notamment par des ONG écolos. Alors, faut savoir que la réglementation européenne devrait permettre normalement de réguler les émissions de certains secteurs, des secteurs qui représentent 60% à peu près des émissions de CO2 en Europe. Sauf que la répartition de l'effort de réduction de CO2 qui est en passe d'être voté hein, par les États membres ne permettra pas d'atteindre l'objectif de 30% d'ici 2030, mais plutôt 23% d'après le calcul des ONG écolo. Alors demain, le 13 octobre, il y a une réunion des 28 ministres de l'environnement européen, justement pour parler de ces réductions des émissions de CO2. Alors on sait que l'Europe elle est un peu à la traîne, on l'avait déjà vu lors de la COP21 à Paris, puisque les États membres s'étaient quelque part un peu excusés ou avaient reconnu que les engagements de l'Union européenne n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif fixé à un réchauffement climatique de 2 degrés. Voilà. Alors, du coup, ils avaient déjà reconnu ça. On se dit, c'est bon. Maintenant, ils ont pris conscience. Et ce qu'ils vont mettre en place va corriger un petit peu ce qu'ils avaient remarqué, c'est-à-dire la faiblesse des engagements européens. Eh ben non, c'est en cours de négociation et chacun y va pour essayer de diminuer son apport et son impact. Donc, ça négocie. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais à part l'Allemagne qui donne plutôt l'exemple, les autres, ils essayent de faire baisser les choses au maximum et d'avoir le moins, de continuer à émettre le plus possible de CO2. Donc c'est assez triste hein, de voir ce comportement de pas mal de pays. On verra ce qui va se passer. Demain, il y a cette fameuse réunion où ils ont une faible part de négociation, hein, notamment sur la réserve de sécurité. Alors la réserve de sécurité, c'est on met des millions de côté de CO2, d'autorisation d'émettre des CO2, puis si un pays n'y arrive pas à respecter son quota, on lui donne ces millions de CO2. Donc ça, c'est déjà une escroquerie en soi. L'Allemagne notamment, et très peu d'autres pays essayent de faire baisser cette réserve, alors que d'autres pays comme la Pologne, qui est un ultra pollueur en Europe, essayent de la mettre très haute parce qu'il semble qu'ils ont pas envie de faire d'efforts et qu'ils vont être obligés d'avoir droit à cette réserve. Bon, bref, notre santé, le climat, la gueule de la planète, tout ça, ça se négocie, sur des coins de table. C'est un petit peu triste. On aura des nouvelles d'ici quelques semaines. Si on a des infos, on en parlera. Mais c'est juste un peu problématique. Alors que c'est un enjeu ultra important qui est en train de se jouer ici, au niveau de l'Europe. Toujours dans cette rubrique sur l'énergie et l'environnement, une info assez marrante et intéressante sur une étude qui a été validée par Carnegie Institution for Science et deux de ses chercheurs, Anna Posner et Ken Caldera, qui ont simulé l'impact de l'installation d'éoliennes sur les océans, donc en plein milieu de l'océan, et voir comment ça pouvait fonctionner, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Et donc eux, ils sont partis de mesures qui existent aujourd'hui sur des parcs d'éoliens sur les terres, et les ont transposées avec une transposition mathématique dans les mers et notamment dans les océans. À savoir, et c'est tout l'enjeu de l'étude, c'est que dans les mers et sur les océans, les vents sont plus forts, plus réguliers, et donc il y a une possibilité de production d'énergie électrique plus importante. Et ils ont calculé qu'en fait, si on installait dans les océans sur 3 millions de kilomètres carrés des éoliennes, et ben ça suffirait l'hiver pour produire la quantité d'électricité nécessaire sur la planète telle qu'on la consomme aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 18 terawatts. Terawatts, c'est 19... ouais. Ah tiens, j'ai un doute sur la puissance. Là, je me suis perdu, 9, je crois que c'est puissance 9. Donc voilà, ça fait 18 avec 9 zéros derrière. En tout cas, les besoins énergétiques consommés aujourd'hui par l'humanité sur la Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va pas forcément mettre 3 millions de kilomètres carrés avec des éoliennes, mais ça veut dire que si on veut, avec les technologies actuelles, rien qu'avec une technologie qui sont les éoliennes, on peut couvrir l'ensemble des besoins. Alors, c'est en hiver, en été, c'est un peu différent, mais on pourrait mettre des panneaux solaires pour l'été. Avec juste des éoliennes. Alors, 3 millions de kilomètres carrés, ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup, c'est 1% des mers. Il y a 360 millions de mers et d'océans sur la planète Terre. Donc on a de la marge. Mais l'étude montre qu'en fait, il suffit, avec les technologies actuelles, sans attendre de sauts technologiques ou d'inventions, on peut déjà vivre 100% en énergie renouvelable. C'est une étude supplémentaire, il y en a qui sortent régulièrement, on en parle ici souvent, mais voilà, ça démontre que c'est possible. Toujours sur l'énergie et l'environnement, la nouvelle étude du jour qui donne le nombre de décès. Alors maintenant, on a une étude par an qui est fournie par des chercheurs européens sur la pollution de l'air et l'impact que ça a sur la santé des Européens. Donc on nous annonce plus de 500 000 décès dus à la pollution liée à la mauvaise qualité de l'air. Alors c'est un peu en baisse, alors c'est un petit peu en baisse, c'est pas énormément en baisse. Grosso modo, en 2014, on était à 550 000 décès, en 2013 plutôt. Aujourd'hui, donc le rapport c'est un peu plus d'un an après, 520 000 décès. Donc c'est mieux, mais c'est pas non plus la grande révolution. L'essentiel des morts, sont dus aux microparticules qui sont produites en grande majorité par les diesels. On peut trouver d'autres producteurs de microparticules, mais c'est essentiellement les voitures, notamment les pollutions environnementales l'été dans les villes, comme au mois d'août, quand on a une pollution à Lyon. C'est beaucoup moins l'industrie et c'est pas le chauffage, parce qu'on chauffe pas, du coup il reste vraiment que la bagnole et que le diesel. Donc voilà, l'étude, alors sur la France, ça ferait à peu près 50 000 morts, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ce qu'on note, c'est que bon, ça va rien changer dans la majorité des villes françaises. On sait que Lyon fait rien, quasiment, contre la pollution automobile et contre ces nanoparticules ou ces microparticules, ces particules fines, grosso modo. Mais la ville de Paris, aujourd'hui, s'est engagée à arrêter le diesel en 2024 pour les Jeux Olympiques et d'interdire toutes les voitures à essence dans Paris à partir de 2030. Ils interdisent pas les voitures, malheureusement, elles seront remplacées par des voitures à électricité. Alors, le principe de l'électricité, c'est que la pollution engendrée par la production, elle est déportée, elle est pas dans les villes elles-mêmes. Donc, c'est du coup, la pollution, elle est ailleurs. Mais bon, pour les villes, c'est mieux. Pour ceux qui habitent à côté d'un truc qui produit de l'électricité, c'est pas toujours mieux. Enfin, ça dépend du type de production, bien évidemment. Donc voilà, mais il y a des choses qui sont mises en place suite à ces différentes études qui sortent maintenant une ou deux fois par an et qui donnent des infos. Bon, à Lyon, malheureusement, non. On a même entendu une belle contre-vérité à France Info à midi où un défenseur de l'automobile disait « Mais il faut pas aller trop vite, regardez à Lyon, quand ils ont décidé de rénover le tunnel de la Croix-Rousse, plutôt que de le fermer aux voitures et de le mettre que aux bus et aux vélos, ils ont décidé de le laisser ouvrir et d'ouvrir un tunnel supplémentaire et c'est bien mieux pour tout le monde. » Sauf que ce menteur hein, qui faisait de la propagande pour le droit d'émettre des particules toxiques et de tuer des enfants, il a oublié de dire que l'école qui est à côté de la sortie et de l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse du côté du Rhône avait des enfants qui étaient confrontés à d'énormes taux de pollution, une partie des cours sont pas utilisés, enfin voilà, des énormes problèmes de santé sur ces enfants qui eux demanderaient juste à respirer un air pur. Donc voilà, ne laissons pas faire la propagande non plus, puisque France Info le laisse faire, hein, puisque bien évidemment le journaliste ne l'a surtout pas contredit. Hein. Peut-être que le journaliste y connaissait rien aussi, c'est peut-être ça la raison, où il était d'accord avec lui sur l'idée qu'il faut surtout pas toucher à la voiture polluante. Donc voilà, ça va plutôt dans le bon sens en ce moment. Et ces différents rapports, comme celui qu'on a eu hier, je crois, remis par l'Agence européenne pour l'environnement, va plutôt dans le sens de la prise de conscience de ces polluants et de ces pollutions. Et puis je vais terminer avec Greenpeace qui a fait un truc assez drôle puisqu'ils sont à nouveau rentrés dans une centrale nucléaire, cette fois c'est à Cattenom en Moselle, et ils ont tiré un feu d'artifice juste à côté de la piscine de la centrale pour démontrer que les centrales nucléaires sont accessibles à des terroristes potentiel, bien évidemment. Eux, ce ne sont pas des terroristes. Alors, EDF a dit non, ils sont pas allés si loin que ça, ils sont pas allés si près des bâtiments. Enfin, ils sont rentrés, ils sont restés 8 minutes seuls à l'intérieur de la zone de la centrale. Ils auraient eu un bazooka ou n'importe quelle arme. Ils faisaient déjà du dégât. Alors, comme c'est pas des terroristes, EDF a pu dire que il y avait aucun risque nucléaire. Bien évidemment, ils sont là pour démontrer que il y a un risque potentiel. Mais voilà, et ça se fait suite hein, à un rapport qui avait déjà attaqué la sécurité des centrale nucléaire française, qui est souvent assez faible, c'est pas le premier rapport là-dessus. Et puis, du coup, bataille de communiquer, les photos de Greenpeace qui montent d'où par le feu d'artifice, et EDF qui dit, mais non, ils n'étaient pas à côté des piscines. On rappelle que les piscines qui contiennent le combustible nucléaire, notamment à La Hague, sont des lieux potentiellement ultra dangereux et ultra sensibles. Et toi, tu voulais revenir un peu sur les échanges?
Oui, non, mais c'est drôle parce qu'alors, donc, on a appris que l'alarme s'était déclenchée à 5h45, qu'il y a un peloton spécialisé dans cette intervention qui est arrivé sur place à 6h et qu'à 7h, il y avait 8 militants de Greenpeace qui étaient en garde à vue. Hein, donc, tout ça est millimétré. Oui, il y a eu un échange, évidemment, sur Twitter qui était très intéressant entre Greenpeace et EDF, puisque EDF explique que les intrus sont toujours restés à l'extérieur des bâtiments hors zone nucléaire. Ah bon? C'est intéressant.
Bah oui, ils sont pas rentrés dans le cœur du réacteur, c'est vrai.
Ah oui, ils avaient pas les deux pieds dedans. Hein. Enfin bon, ils étaient quand même dans l'enceinte du bousin, et qui veut dire, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que EDF a même fait un schéma sur son compte Twitter pour nous expliquer avec des petites croix où est-ce qu'ils étaient. Ah bah oui, et donc là, le machin autour bleu, c'est bien une enceinte. Et donc les militants étaient bien à l'intérieur de l'enceinte. Donc EDF fait des petites choses qui les enfoncent eux-mêmes. Individu intercepté à la centrale nucléaire de Cattenom. EDF condamne cette action, donc il y a même eu un communiqué 2 heures après pour répéter exactement la même chose. EDF a bien expliqué que il n'avait été nulle part, l'a répété plusieurs fois. Et alors, il y a eu tout un tas de gens, alors évidemment on se doute qu'il y en a, ce sont des militants de Greenpeace, des militants anti-nucléaires, mais il y a tout un tas de gens sur les réseaux sociaux, vous savez, qui aiment bien hein, appuyer, faire clic, 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 qui se met à insulter EDF en disant vous nous faites chier et tout. Et d'ailleurs Greenpeace a un moment répondu à EDF en disant et ça, et donc a mis en boucle un mème, hein, vous savez, vous voyez le feu d'artifice de nuit, c'est beau hein,
c'était encore la nuit le mème.
Bah ouais, donc c'est assez joli, donc ça c'est la preuve qu'ils étaient bien là. Ce qui est intéressant aussi, c'est les excuses que certains et certaines ont tenté de trouver, comme une interview dans Usine Nouvelle du patron de New Areva qui s'appelle Philippe Knoch. je pense qu'on dit comme ça, monsieur que je ne connaissais pas bien, qui a expliqué qu'en fait, non mais en fait, il n'y a pas eu de souci. Si jamais il n'y a pas eu de problème, c'est parce qu'en fait, comme c'était des militants écolos de Greenpeace, ils ne se sont pas fait tirer dessus. Donc en fait, on voudrait nous faire croire
en fait, ils n'ont pas fait péter la centrale non plus. Hein.
Voilà, tout s'est bien passé parce que, en fait, c'était des militants de Greenpeace, finalement des petits joueurs.
Sauf qu'ils ne le savaient pas avant de les arrêter, en fait.
Et voilà. Le problème, c'est que même si on s'aperçoit de loin, enfin Greenpeace, souvent ils sont un petit peu grillés quand même, on arrive à les voir.
Le jour
où
des terroristes essayent de rentrer dans une centrale, ils ont intérêt à se déguiser en militants écolo. Hein.
Ah voilà, et bien, alors, c'est très marrant parce que ça serait donc parce que, en fait, c'était des militants de Greenpeace que, en fait, tout s'est bien passé et que finalement la centrale n'a pas explosé et que tout le monde le savait et que finalement, ben. C'est juste ils risquent tout, ces gens. Ils risquent même leur vie. Par contre, c'est ce que DF dit. Alors, soit on savait que c'était des militants et qu'ils sont pas fait tirer dessus et que donc on craignait rien et donc ils ont pas risqué leur vie. Soit ils risquent leur vie. Et c'est bien parce qu'il se passe quelque chose en face. Mais ça, c'est une communication qui, un petit peu, s'est mordu la queue du côté, quand même, des pro-nucléaires. Ça n'a pas bien fonctionné du tout, du tout, du tout.
Et du coup, on n'aura pas le temps de faire l'info sur le sport business.
Mais non, mais la semaine dernière, on n'avait pas fait Facebook. C'est pas grave, ne s'inquiétez pas. Le sport business, c'est comme Facebook. Il y a toujours à en dire.
On vous laisse en compagnie de la petite cuillère. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Kenny Info du jeudi et demain pour le Kenny Info du vendredi.
Ciné-club à la CNT au 44 rue Burdeau, toujours pour lutter aussi contre le travail. C'est bien de se former, c'est à 16h.
Dimanche, on sera le 15 octobre et c'est le troisième partie avec un documentaire qui s'appelle La Dépossession.
Pas besoin d'avoir vu les deux premières parties. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.
Bye, bye.